Danny Dubé avec nous dans quelques instants. On va revenir sur un été magique à Montréal, celui de 1946 avec Jackie Robinson et les royaux de l'époque avec l'auteur d'un livre à ce sujet, Marcel Touga, dans quelques instants. Marc Ramsey va nous parler de David Lemieux, de son état de santé, des combats à venir pour Elider Alvarez et Arthur Beterbiev vers 20h. Mais d'abord, retrouvons Daniel Brière. Bonsoir, Daniel.
Salut, mon Mario.
Ça va bien?
Ben oui, très, très bien.
Good, good. Gros journée à Philadelphie. Alain Vigneault accueilli comme un roi, l'homme qui va arriver avec toutes les solutions pour relancer les Flyers. Comment tu trouves ça? Comment ça s'est passé?
Ah, ben écoute, j'ai eu la chance de voir ça de loin. J'étais au bureau de l'aréna et non au bureau de l'aréna de pratique des Flyers. Donc, j'ai suivi ça à la télévision, mais il a fait de l'excellent travail. Sa présentation, on pouvait voir qu'Alain Vigneault était prêt. Tu vois que c'est un entraîneur qui en a vu d'autres, comme on dirait. Écoute, tout le monde sait que Philadelphie, c'est un gros marché de hockey. C'est pas un marché facile. Mais quand on regarde la fiche d'Alain Vigneault, les endroits où il a été entraîneur, quand on passe à Vancouver, à Montréal et au New York, à New York Rangers, c'est trois gros marchés de hockey, probablement plus gros encore que Philadelphie. Donc pour lui, là, c'est de la petite gomme arrivée à Philadelphie. Je pense pas que ça lui fait trop peur. Il avait l'air très, très à l'aise pendant sa conférence de presse. Il a donné de bonnes réponses tout au long de la conférence de presse. Donc, je pense qu'il a épaté la galerie.
Ça prend quoi pour te faire aimer au-delà de ta conférence de presse d'accueil à Philadelphie quand t'es coach, Daniel?
Ben écoute, les
victoires.
Les entraînements, c'est un peu les sauve-douleurs des équipes professionnelles à Philadelphie, à moins que tu gagnes. Donc, c'est la recette pour Alain Vigneault. C'est tout si simple que ça. Je pense qu'il en est conscient. Ça fait longtemps que les Flyers ont pas gagné une ronde de séries éliminatoires. Donc, c'est un peu ça qui est l'attente là, du côté d'Alain Vigneault et des Flyers pour la prochaine saison.
Est-ce que tu es rassuré par rapport à ce qui va se passer devant le filet avec l'arrivée, l'entrée en scène de Carter Hart cette année? Puis est-ce que c'est là la meilleure garantie qu'il va pouvoir rebâtir sur quelque chose de solide?
Oui. Puis c'est un des points qui m'amène à croire que Alain Vigneault va avoir du succès à Philadelphie. C'est justement, ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas eu un grand gardien qui pouvait prendre les rênes. C'est tout le temps des gardiens numéro entre 1 et 2. Il n'y a pas eu, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un solide numéro 1. Je suis pas certain que Carter Hart est complètement rendu là encore dans son développement, mais tout le monde le voit très bien là comme le gardien du futur. Puis d'ici 2-3 ans, devrait être solide là comme un solide numéro un. Puis c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir pour les Flyers puis pour Alain Vigneault d'avoir du succès ici à Philadelphie.
En tout cas, les gardiens numéro 2 auront la cote sur le marché des joueurs autonomes et peut-être des transactions cet été, parce que si tu dis qu'il y a quand même encore des points d'interrogation, t'as pas le choix d'avoir un bon deuxième. Quand on constate que des gars qui gagnent la Coupe cette année ne gardent pas le filet plus que 60 matchs ben pendant une année, ça t'en prend un qui est capable de prendre 20-25 départs. Je pense que des équipes vont mettre même peut-être plus d'argent sur le budget qui est alloué au numéro 2, Daniel.
Oui, je suis d'accord. De plus en plus, les dernières années, on voit des équipes où on aime là, splitter ça à 50-30 même. Puis là, il reste deux autres parties, dépendamment de comment les choses se déroulent. Je te dirais là, que dans le cas de Carter Hart, si on pouvait mettre pour les Flyers l'emphase à trouver un gardien pour avoir un A et un B, qui pourraient les deux garder les filets pour à peu près une quarantaine de matchs, entre 40 et 45 pour Carter Hart, je pense que ce serait l'idéal pour son développement. Donc, mais c'est de trouver le bon gardien qui est prêt à travailler avec un jeune, qui comprend que le futur, c'est pas lui, c'est Carter Hart. Des fois, c'est pas facile là, à embaucher, à trouver un gardien qui est prêt à accepter ça, qui est prêt à travailler pour développer un autre gardien. Ça, c'est pas toujours facile à trouver.
Non, un gars qui finalement met de côté l'idée de redevenir numéro un, comme quelqu'un qui vient travailler avec Carey Price, tu sais qu'en partant, t'oublies ça, à moins qu'il y ait une blessure. Fait que c'est sûr que ça te prend le bon candidat. Il y en a des bons, mais des gars qui veulent sûrement redevenir numéro un. Juste pour finir sur le dossier des gardiens de but, deux petites nouvelles vite faites sur le Canadien. Prolongation d'un an pour Christian Folling, qui arrivait de votre organisation, les Flyers de Philadelphie. Mais Caden Primo, qui est venu terminer sa saison à Laval là, pour observer comment ça se passait, s'en va avec l'équipe américaine au championnat du monde en Slovaquie. Serais-tu tenté de donner le rôle de deuxième gardien à un jeune qui arrive comme Primo où t'aimerais mieux qu'il soit vraiment, qu'il voit beaucoup, beaucoup de rondelles dans la Ligue américaine, toi, Daniel, pour sa première année pro?
Ben, écoute, je vais être honnête avec toi. Moi, je connais Kaden Primo très, très bien. J'ai eu la chance d'être son entraîneur pendant quelques années au hockey mineur.
Je savais pas ça.
Fait que je le connais très, très bien. Il a joué avec mes garçons. Même si je l'aime beaucoup puis je l'adore, je pense que pour lui, pour son développement, je pense que la meilleure chose, ce serait de suivre un peu le même cheminement que Carter Hart a fait. Commencer dans les mineurs, à avoir la chance de jouer presque à tous les soirs, de savoir qu'il est le numéro un. Puis écoute, c'est pas un marché facile à Montréal. Puis on sait que si on l'amène derrière Carey Price, il n'aura pas la chance de jouer aussi souvent. Donc moi, je pense que pour son développement, là, la meilleure chose, c'est de commencer avec le Rocket. Le Rocket, je pense qu'ils vont avoir une meilleure équipe, s'en vont dans la bonne direction, du moins avec Joël Bouchard. Ils se sont améliorés beaucoup cette année. Je pense qu'ils vont continuer de s'améliorer, puis ce serait une bonne place pour lui là, pour commencer.
On s'est parlé mardi, juste avant ou au moment où les matchs là, commençaient. Tampa Bay balayé, Pittsburgh balayé. Incroyable. On s'est entretenu avec Louis Domingue hier qui se questionnait à savoir si l'opportunité est passée pour le Lightning, si c'était pas l'an passé sa meilleure opportunité. L'équipe est sous le choc. Même Julien Brisebois, qui nous accordait une entrevue tout à l'heure, voulait pas trop y aller dans les hypothèses qui expliquent la défaite. C'est une organisation sous le choc. Je pense pas que tu sois surpris. Tu leur accordais une chance de revenir, mais finalement, ton interprétation puis ton analyse de cette élimination rapide.
Ben écoute, ils ont été les Blue Jackets ont travaillé plus fort qu'eux. À la fin de la journée, c'est la réponse, d'après moi, qui explique tout. C'est toute une équipe de hockey, le Lightning de Tampa Bay, ce qu'ils ont fait en série éliminatoire, vraiment, vraiment incroyable. Mais ça démontre encore une fois, le hockey de série éliminatoire, c'est complètement différent. Tu dois être prêt, tu peux pas manquer de chiffres. Tu dois être à 100% à tous les chiffres. C'est de ce côté-là, je crois que le Lightning se sont fait jouer un tour. Ils vont devoir apprendre à jouer différemment en séries éliminatoires, d'être prêts à élever leur cran. Puis on a vu la même chose du côté des Penguins de Pittsburgh. Je suis pas sûr que plusieurs joueurs étaient prêts à sacrifier autant qu'ils l'ont fait lors des deux conquêtes de la Coupe Stanley il y a 2 et 3 ans. Puis en séries éliminatoires, ça prend pas de temps. Quand t'es pas prêt à te battre pour chaque rondelle, tu peux te faire jouer un trou très, très rapidement, puis on l'a vu avec le Lightning surtout.
Daniel, même si t'as pas eu le privilège de gagner la Coupe cette année, t'as une finale à ton actif avec les Flyers, et on le sait, je le répète, t'as été très, très productif dans ta carrière en série. Donc, toi, juste à l'œil, quand tu regardes ça à télévision, sur place, tu le vois, une équipe qui fait ce qu'il faut pour gagner? Puis une équipe qui le fait
oui,
pas?
Oui, oui. Oui, tu le vois. Puis ça veut pas dire que tu vas gagner à chaque reprise. Moi, j'ai regardé le Columbus jouer là, les dernières années. Puis j'ai toujours vu une équipe déterminée en séries éliminatoires. Les deux saisons précédentes, je pense qu'ils se sont fait jouer le tour par les Penguins de Pittsburgh. Mm-hmm. Mais je les regardais jouer, puis je me dis ils sont pas loin. Je me disais toujours, ils ont toute une équipe. Ils se défoncent en séries éliminatoires, mais ils sont pas encore là. Il manque un petit quelque chose. Mais là, cette année contre le Lightning, tu voyais que leur ardeur au travail était nettement supérieure au Lightning de Tampa Bay. Puis en séries éliminatoires, c'est plus important, je te dirais, que le talent brut. Le talent peut t'amener à un certain endroit, mais avant tout, ça te prend vraiment comme on dit, là, la dureté du mental en bon québécois.
Vraiment.
Faut que ce soit là. Ouais, il faut se défoncer à chaque chiffre. Je pense pas que le Lightning, en général, était prêt à faire ça.
Est-ce que tu penses que donc ce sont les équipes qui ont les joueurs, bon, ça te prend des joueurs de talent, mais il faut que tes joueurs de talent soient hargneux, pas des gars qui vont se frustrer s'ils sont pas capables de scorer. C'est parce que dans le fond, tu rencontres des équipes qui sont capables. Exemple, si une équipe est capable d'annuler tes principales forces, là, tu viens d'oublier des points de classement qui te séparent. Là, ça crée un rapprochement entre les équipes, Daniel.
Oui, exactement. Mais d'un autre côté, tu sais, je suis pas prêt à dire que c'est fini pour le Lightning de Tampa Bay parce qu'ils l'ont prouvé dans le passé. Ils se sont rendus quand même en finale de conférence il y a une couple d'années, en deuxième ronde. Ensuite, je pense que c'était l'an dernier qui était en finale de conférence.
Oui, contre Washington.
Ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner. Mais je pense que cette année, le fait qu'il y avait tellement une avance confortable sur les autres, ils ont perdu cette coche-là qu'il y avait, cet edge-là qu'il y avait sur les autres équipes. Puis ça, c'est dur à retrouver. Je vous en ai parlé il y a 2 soirs quand j'évoluais à Buffalo il y a quelques années, puis on a fini premier dans la Ligue. on s'est retrouvé en séries éliminatoires, puis nous autres aussi, on avait perdu ce petit edge-là qu'on avait sur les autres équipes. Puis c'est dur de retrouver ça, c'est dur de tourner de côté en séries éliminatoires, puis de dire, OK, là, je repars, puis ça va être à 100 000 à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai vu du côté du Lightning. C'est pas une équipe qui est plus capable de jouer au hockey, c'est pas une équipe qui a plus de talent, c'est juste une équipe qui a pas été capable de retrouver le petit edge qu'il y avait en saison régulière, que ça prend encore, qu'il faut élever encore plus haut en série.
Penses-tu que le fait d'avoir remporté une ronde, c'est suffisant pour, comment dirais-je, venir valider les décisions de l'état-major de Columbus d'y aller all-in?
Je suis comme entre les deux ponts. D'après moi, là, il faudra en gagner au moins une autre pour... parce qu'on a pris toute une chance là, du côté de Columbus, surtout si on perd des gars comme Duchesne, Panarin, Zingel, Bobrovsky et compagnie, ça pourrait faire très, très mal aux Blue Jackets. D'après moi, là, pour que ce soit une bonne décision, je te dirais que ça prendrait un autre ronde.
À ceux qui disent, probablement peut-être à Philadelphie ou à Montréal, parce que là, ils regardent Vegas qui ont fait des acquisitions à date limite des transactions, qui regardent Columbus dire, mais Marc Bergevin aurait dû être plus agressif, aurait dû bouger à ce moment-là, ou peut-être la même chose pour le DG des Flyers. Tu réponds quoi, Daniel?
Non, moi, quand je regarde les deux équipes, autant le Canadien que les Flyers, pour moi, c'était pas des équipes qui étaient prêtes à faire ce saut-là. Comme le gérant de Columbus, je pense que Columbus était beaucoup plus prêt. Les dernières années, c'est une équipe qui se bataillait, c'est une équipe qui joue très, très physique, qui est bâtie pour les séries éliminatoires. Donc, de leur amener des joueurs de talent comme Duchesne, et Zingel, je pense que ça pouvait juste les aider. C'est un peu de cette façon-là. Quand je regarde le Canadien et les Flyers, c'est pas des équipes qui sont encore rendues à ce niveau-là. Ils sont pas prêts à prendre un autre step en séries éliminatoires. Peut-être l'an prochain. Je pense qu'ils vont être encore plus prêts. C'est des équipes qui ont beaucoup de jeunesse. Puis je pense pas que ça aurait été la bonne décision là dès cette année de se débarrasser de quelques bons jeunes joueurs ou de donner un choix. Un premier choix au repêchage tout de suite. Tu veux attendre, pour moi, là, pour prendre cette étape-là, tu veux attendre d'être vraiment plus proche d'être une équipe là, compétitive en séries éliminatoires.
En rafale, pour compléter notre conversation, Daniel, qu'est-ce qui attend les Penguins de Pittsburgh avec un noyau de joueurs vieillissant, mais sous contrat?
Ça sera pas facile. Puis ça fait plus long. Ça fait plusieurs années qu'on y parle, qu'on parle de ça quand ça va arriver. Les Sidney Crosby, Kessel, Malkin et compagnie qui vont vieillir. On va devoir prendre des décisions difficiles probablement à un certain moment donné. On a pris une difficile il y a 2 ans quand on a laissé partir Marc-André Fleury, mais je pense qu'il y en a d'autres qui s'approchent. On parle beaucoup de Kessel qui pourrait possiblement partir, mais encore une fois, c'est pas complètement fini. Je crois dans le cas de Crosby et Malkin, je pense que c'est des joueurs qui peuvent te donner un autre bon 2 ou 3 ans. Puis je pense que les Pingouins vont leur donner cette chance-là. Ils vont pousser pour un autre 2-3 ans, essayer d'aller acquérir un autre conquête de la Coupe Stanley.
Je sais pas si t'as un téléviseur d'allumer ça sur le match entre Washington et Caroline, Daniel, mais il y a beaucoup de buts marqués dans les débuts de match dans ces séries-là. Caroline qui s'est inscrit à 17 secondes de la première période. Très curieux. Penses-tu qu'ils égalisent ça 2-2 ce soir, eux autres?
Ce que je t'ai donné, comme prédiction, l'autre fois, ça n'a pas fonctionné trop, trop fort. Tampa Bay et Pittsburgh. Donc, j'ai peur de dire oui, mais je l'espère beaucoup. Mais écoute, ce que la Caroline a fait au dernier match a complètement dominé les Capitals. C'était vraiment impressionnant à voir. C'est pas une place facile à jouer en Caroline. L'entraîneur Todd Reardon l'a mentionné avant le match 3. On voit ce qui se passe encore une fois. À jouer en Caroline, là, c'est des bons partisans. Ils sont pas toujours en grand nombre pendant la saison régulière, mais c'est des fans de football beaucoup. Ils arrivent très, très tôt. Ils font le party dans le stationnement avant la partie. Puis ils sont très, très bruyants là, pendant les matchs de séries éliminatoires. Donc, c'est une place très, très fun à jouer en série, puis pas facile pour l'équipe adverse.
Un dernier sujet. Tu connais Alex Barré-Boulet, ou t'en as entendu parler certainement, qui était avec l'Armada. Savais-tu qu'il avait été choisi recrue de l'année dans la Ligue américaine aujourd'hui?
Ben oui, j'ai vu ça cet après-midi. C'est vraiment spécial.
T'as déjà gagné ce prix-là. Et savais-tu que c'est qui le dernier Québécois qui a remporté le titre avant Alex aujourd'hui?
Non.
C'est toi.
C'est moi qui avais été le dernier. Je savais pas. Je me souviens d'avoir remporté ce trophée-là. Je savais pas que j'étais le dernier Québécois, par contre.
Ça fait 21 ans. Donc, l'année qu'Alex est venu au monde, tu gagnais le trophée. Et ma question, Daniel, si tu avais un conseil à donner à un gars avec un petit gabarit, clairement de belles aptitudes offensives, qui vient de gagner le trophée de recrue de l'année, puis je regarde, toi, tu vois, tu gagnes ça 97-98, et c'est quand même une couple d'années plus tard que tu t'établis vraiment dans la Ligue nationale. Alors, c'est pour ça que je te demande ça.
Oui. Moi, ce que je lui dirais, c'est de continuer à travailler sur ses forces. Moi, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que les Coyotes de Phoenix m'avaient demandé de grossir. Donc, j'avais pris une quinzaine de livres au camp d'entraînement suivant. Quand je m'étais présenté au camp, on m'avait dit « Ah, finalement, t'es trop lent maintenant. Donc, retourne dans les mineurs, perds du poids. » Donc, au lieu de travailler sur ses faiblesses, c'est sûr que tu dois toujours essayer d'améliorer tes faiblesses également, mais des fois, on oublie de travailler sur nos forces. Ce qui va faire de Alex un joueur spécial dans la Ligue nationale, ce ne sera pas d'aller se battre de chez les gants ou d'aller frapper des joueurs dans les coins, de jouer physique. Ça va être de continuer de produire offensivement. Puis donc, c'est ce que je lui dirais. Continue à travailler sur ton coup de patin, sur ton lancer, sur ta vision de jeu. C'est ça qui va mener le plus loin possible là, dans la Ligue nationale plutôt que devenir plus gros et plus fort.
Daniel, je dois aller à la pause, mais c'est toujours bon comme dans du bonbon, mon cher. Je te dis à bientôt. Bon match au pluriel ce soir. On se reparle bientôt.
J'ai bien hâte. Merci, Mario.
Moi aussi. Bye-bye, Daniel. Bye-bye. Daniel Brière. Et après la pause, place à Danny Dubé.